justement pour limiter le nombre de loups. Une chasse qui sera autorisée avec des quotas de 20 à 40 loups dans les 5 régions de Suède où l'animal se reproduit.
Bonjour, c'est Yves Calvi. Aujourd'hui, l'invité de Nonobstant est le metteur en scène Peter Brook. Il quittera son théâtre des Bouffes du Nord l'an prochain après l'avoir dirigé pendant 35 ans. Peter Brook nous parle théâtre du Shakespeare de son enfance à Eleven and Twelve, le dernier spectacle qu'il met en scène en anglais et sous-titré tous les soirs aux Bouffes du Nord. Bref, une vie de théâtre dans Nonobstant avec Peter Brook.
Nonobstant, Yves Calvi, du lundi au jeudi à 17h, France Inter.
La différence.
Il est 15h04, l'heure de retrouver Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Bonjour. Jusqu'à présent, je la trouvais plutôt sympa, Ramayad. Sa colère contre la réception en grande pompe de Kadhafi par Nicolas Sarkozy. Sa prise de position contre la nomination du fils du même Nicolas Sarkozy à la tête de l'EHPAD. Son refus de se présenter au régional dans le Val d'Oise, où ses soi-disant amis du MP lui avaient dit, avec élégance, qu'elle y ferait plus couleur locale. Et puis, il y a eu cette réunion publique d'hier soir où là, hélas pour elle, sa véritable nature politique en tout cas est apparue. En effet, il était demandé à celles et ceux qui voudraient bien assister à cette réunion qui avait pour thème les futures élections régionales en Île-de-France d'apporter leur CV s'ils étaient à la recherche d'un emploi. Bien sûr, ils sont venus nombreux, mais en réalité, ils sont tous partis déçus et surtout pas dupes de la mauvaise supercherie. Car avec Laurent Wauquiez, qui était également présent, Ramayad a quitté la réunion avec des CV plein les poches, mais aussi avec l'incapacité de fournir, bien évidemment, le moindre emploi à qui que ce soit. Alors, Madame Yad, vous qui, avec d'autres, à droite comme à gauche d'ailleurs, incarnez le renouveau en politique, ne faites pas comme vos illustres aînés qui nous bercent d'illusions depuis trop longtemps et dont le seul but est d'être élu. Car ce n'est pas comme ça que vous allez réconcilier les gens ordinaires avec la classe politique. Merci, Madame. Au revoir.
Bonjour aux auditeurs de là-bas si j'y suis. Je souhaite juste donner une information à ceux qui ont raté l'excellente émission d'hier autour de l'étonnant bouquin dirigé par Benoît Colomba et récemment paru à la découverte, Histoire secrète du patronat depuis 45. Si vous avez raté l'émission d'hier, vous pouvez bien sûr le réécouter sur le site de France Inter, mais vous pouvez même faire mieux si du moins vous n'habitez pas trop loin de Paris. Vous pouvez rencontrer les auteurs en vrai. Ils seront demain soir 20h30 à l'Espace Quartier Latin, 37 rue Tournefort dans le 5e, métro Sancier, à l'invitation de la librairie Palimpseste. N'hésitez pas à venir, il y a de la place.
Dans le cadre des grèves de sans-papiers, il y a une occupation qui a démarré ce matin au 78 rue Championnet, Paris 18e, à la société ISS, multinationale de nettoyage, qui a une branche sécurité qui emploie des vigiles avec un recrutement assez particulier puisqu'il s'agit pour une partie d'anciens mercenaires serbes et qui se sont illustrés il y a quelques semaines en brutalisant des grévistes Porte de Charenton, rue des Meuniers, dans une autre agence. Je voulais attirer votre attention là-dessus puisque la société est un peu emblématique en termes d'exploitation des sans-papiers et compte tenu de la brutalité de la milice patronale qui est employée par cette société. Merci de votre attention, au revoir.
Bonjour à tous et à toutes. Si vous habitez dans la région de Montbrison, dans le département 42, nous vous invitons à participer au deuxième café repère de là-bas si j'y suis, organisé dans cette ville. Il aura lieu le jeudi 10 décembre à 19h30 au café l'Afro-Cuban Club, route de Chandieu. Après le succès du premier rendez-vous de novembre, nous souhaitons durablement installer, une fois par mois, cette passionnante formule de rencontre. À bientôt.
Bonjour à toute l'équipe de là-bas. C'est à propos de la vaccination sur la grippe A, comme beaucoup d'intervenants, je suppose, en ce moment. Alors, je ne sais pas si au gouvernement, ils savent faire une division encore. C'est vrai qu'ils ont fait de hautes études, donc ils ont peut-être un peu oublié ça. Mais on nous parle aujourd'hui de 100 000 personnes vaccinées par jour. Bon, c'est bien. Des Français, il y en a 60 millions à piquer. Donc, si je compte bien, ça fait quelque chose comme 600 jours pour arriver au bout. Alors, 600 jours, ça fait pratiquement plus d'un an et demi. Actuellement, il y a 1 million de personnes qui ont été vaccinées. Et puis finalement, il y a 3 millions de personnes qui ont eu la grippe. Donc l'épidémie va 3 fois plus vite que la vaccination. Donc notre président a piqué une grosse colère, paraît-il, il n'y a pas longtemps, là, hier ou avant-hier. Et il a affirmé qu'il fallait passer à 3 fois plus de vaccinations par jour. Bon, bah, c'est bien. Ça ramènera le délai pour piquer tout le monde à autour de 6 mois et demi. Donc d'ici la fin juin prochain, en 2010, ça devrait peut-être être fini. Allez, bon courage à tous les piqueurs.
Bonjour Daniel, bonjour à toutes et à tous. 52 000 chômeurs de plus en octobre, catégorie A. 600 000 chômeurs de plus en un an. Près de 2 000 licenciements par jour, samedi et dimanche compris, depuis 12 mois. 300 000 licenciements supplémentaires attendus à brève échéance dans l'industrie, selon Bernard Thibault. Voilà la première conséquence de la crise. Aujourd'hui, la crise est l'argument imparable pour motiver les licenciements massifs, les délocalisations, le blocage des salaires, la déréglementation du marché du travail et la précarisation généralisée. Même le SMIC est sur la sellette. Si cette crise touchait tout le monde, sans distinction, il y a des arguments que nous pourrions entendre, que nous pourrions comprendre, mais nous savons que si des centaines de milliers de personnes basculent dans la précarité, rejoignons les millions qui le sont déjà, d'autres se goinfrent. Car la seconde conséquence de la crise, c'est qu'elle amplifie les inégalités. Les uns de plus en plus nombreux, 52 000 en octobre, la payent au prix fort, les autres en tirent les bénéfices. Et ce n'est pas par conviction idéologique que je l'affirme, c'est par l'observation objective du contexte économique et social français. Mais inutile d'épiloguer, samedi 5 décembre, une journée de mobilisation des chômeurs et précaires est organisée à Paris et dans plusieurs villes de province. À Paris, le rassemblement a lieu métro Stalingrad à 14h. Pour les informations supplémentaires pour les rassemblements de province, reportez-vous au site actuchômage.org, qui milite depuis 5 ans sur les questions du chômage, de la précarité et la défense des droits des travailleurs. Merci à tout le monde. À bientôt.
AMG du Pas-de-Calais, rendez-vous ce jeudi 3 décembre à partir de 18h30 à Monchy-Breton. Alors, nous allons rencontrer les journalistes du coin, correspondants de presse, pigistes, qui nous parleront de la façon dont ils font leur métier. Et puis, bien sûr, il y a bien d'autres sujets que nous aborderons. Venez nombreux, donc à partir de 18h30 à Monchy-Breton.
Très bonne idée d'organiser des repères en invitant les journalistes du coin à expliquer comment ils font leur travail. Merci en tout cas pour ces messages, chers AMG. Aujourd'hui, nous sommes à Delhi. Poussière, brouillard, pollution, circulation démentielle. Pas facile de faire rimer Delhi et délices, sauf si vous faites partie de la Shining India, l'Inde qui brille, l'Inde qui fonce tête baissée dans le panneau de la conso. Pour les autres, rien ne bouge. Pour la moitié au moins des habitants du sous-continent, rien ne change. Au contraire, l'Inde profonde s'enfonce. Et c'est sur cette Inde-là que se développe la guérilla maoïste des Naxalites. C'est le plus grand problème sécuritaire du pays, selon le président indien, et c'est ça qui nous intéresse. Mais aujourd'hui, à Delhi, un peu partout, il y a des manifestations pour le 25e anniversaire de la catastrophe de Bhopal. Vous vous souvenez, certains d'entre vous, en tous les cas, s'en souviennent, c'était le 3 décembre 1984, 3000 morts dans la nuit, 5 à 6000 victimes au total. Et aujourd'hui, toujours des séquelles dans la santé de la population et bien sûr dans l'environnement autour de l'usine Union Carbide de Bhopal. Les revendications, les procès continuent, mais Warren Anderson, le PDG de l'époque, finit tranquillement son existence dans sa confortable résidence de Long Island, près de New York City. Le gouvernement de l'Inde a pour projet d'édifier un mémorial comparable au mémorial d'Hiroshima. Bhopal est une des pages les plus noires du livre noir du capitalisme. Nous y étions en 2004 et je vous propose d'y retourner aujourd'hui. Peu de choses ont changé. Les habitants et les survivants et le gouvernement se battent toujours pour obtenir réparation. Aujourd'hui, donc, et demain, retour sur Bhopal. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base J'y suis au 01 56 40 37 37.
Les AMG du Repère de Perpignan s'intéressent à la voix du citoyen au sein des différentes sociétés humaines dans l'histoire. Nous invitons des personnes documentées sur ce thème à intervenir dans nos débats. Donc notre prochain repère, c'est jeudi 3, donc demain, à 18h30 au Lisbois. Voilà, merci, à bientôt.
Allô, bonjour à tous. Vous avez aimé AZF à Toulouse, vous adorerez Uralchem à Dieppe. Je vous invite à un petit séjour à Dieppe dès 2011. Notre usine de 200 000 tonnes de nitrate d'ammonium, c'est les engrais russes Uralchem, sera fin prête en plein centre-ville pour vous envoyer en l'air. Ben oui, c'est le cocktail AZF, efficacité garantie. 500 camions par mois défonceront toutes les routes de la région et leur contenu tapissera d'algues vertes toutes les côtes. Après avoir assaisonné vos assiettes et bouffé les poumons des ouvriers et des agriculteurs. Mais eux, dit le maire communiste, ça créera, au moins 20 emplois. Si vous trouvez que Dieppe manque de suspense, je vous rappelle que la ville est entre deux centrales nucléaires avec une promesse d'EPR. De plus, la Manche n'est pas le lac Léman. On peut vous prévoir aussi au moins un naufrage de rafio russe bien toxique. Et comme la période électorale, les petits arrangements entre amis se verrouillent tout à fait, vous pouvez être sûr, en venant à Dieppe, de découvrir une ville qui marche à l'envers, tourne le dos à l'avenir, réchauffe les vieilles recettes industrielles d'il y a 50 ans. Vous détestez les écolos, vous êtes furieusement nostalgique. Vite, à Dieppe!
Bonjour là-bas, comme tous les premiers samedis du mois à Strasbourg, on refait le monde à l'âche. C'est toujours le nom du café où le repère de Strasbourg se réunira ce samedi 5 décembre à 15h. Strasbourg, ou le marché, que dis-je, l'hypermarché de Noël que l'univers entier nous envie, a déjà ouvert ses vannes de vin chaud et de babioles made in China. Alors le sujet de la réunion est tout choisi, le Père Noël, mythe ou réalité? Et si ce sujet est vite épuisé, ce qui reste possible, on devrait pouvoir discuter de Dubaï avec cette question, mirage ou miracle? Et si jamais il nous reste encore 5 minutes, on pourra reparler de l'affaire de Tarnac avec cette question, mythomanie et falsification? Alors, à samedi 15h au Café L'Âge de Strasbourg, avec peut-être le Père Noël comme invité surprise, s'il a ses papiers en règle. Merci là-bas.
Amis de là-bas, si j'y suis, adorateur et fan de Frédéric Lordon, ce dernier interviendra dans le cadre de la première causerie du Kremlin-Bicêtre. C'est un cycle de conférences-débats dont le thème sera la crise, stop ou encore. Donc ça se passe à la mairie du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, le 7 décembre à 20h. C'est au métro Kremlin-Bicêtre sur la ligne 7. Venez nombreux.
Tout auréolé de son récent prix Nobel de la paix, le président Obama va envoyer 30 000 soldats supplémentaires en Afghanistan. Ça vous choque? Ben non, c'est normal. Vu qu'on a donné le prix Nobel de la paix à un président en guerre, il a compris le message. Il faut continuer la guerre. Il faut continuer le travail de pacification du monde, c'est-à-dire de mise en conformité de la planète aux valeurs et aux normes de la vieille Europe et de l'Amérique du Nord. La guerre menée par l'Occident est une guerre juste. C'est une guerre qu'on pourrait aller jusqu'à qualifier de pédagogique. C'est une guerre pour avoir la paix. Comme dit la célèbre formule latine, si vis pacem, para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Moi, de temps en temps, je consulte les pages roses du dictionnaire. J'adore ça, moi, les locutions latines. Et vous savez quoi? Juste au-dessus de si vis pacem, para bellum, on trouve sit tibi terra lewis. Ça veut dire que la terre te soit légère. C'est l'inscription qu'on pourra graver sur la tombe des soldats qui reviendront d'Afghanistan dans un cercueil. Les djihadistes, mais aussi les soldats français et tous les autres. Quant aux Afghans, pas la peine de graver une inscription latine sur leur tombe. Ils connaissent même pas le latin, les Afghans.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil. Là-bas, si j'y suis, quelques Indes. Ces gens vous souhaitent la bienvenue en Inde. En Inde, terre de mystère et de contraste, de fascination, de passion, multicolore. Bienvenue à tous, bienvenue en Inde, sauf si vous vous appelez Warren Anderson. Parce que si vous avez bien tendu l'oreille, si vous parlez hindi, ce qui est le cas de certains auditeurs, eh bien vous avez compris que ces slogans s'adressent à un certain Warren Anderson. Et mon cher Warren Anderson, si vous nous écoutez, ce qui est très peu probable, mais sait-on jamais, eh bien sachez que on rêve de vous pendre. Absolument. Et pourquoi ? Eh bien, Bhopal, c'est synonyme de cette catastrophe. Au cours de la nuit du 2 au 3 décembre 1984, une usine de pesticides de la firme américaine Union Carbide, dont mon cher Warren, vous étiez le PDG, eh bien, cette usine relâchait dans l'atmosphère 40 tonnes d'un poison extrêmement violent, le MIC, c'est-à-dire isocyanate de méthyle, qui s'échappait du réservoir 601. Et l'usine étant cernée par des bidonvilles, eh bien, ça a été une catastrophe. Les chiffres officiels, il y a beaucoup de chiffres sur la catastrophe de Bhopal, sont les suivants. Il y a 15 249 morts selon les statistiques officielles gouvernementales, selon la commission Victimes Gaz Bhopal, et 554 911 personnes qui détiennent une carte de victime de cette catastrophe. C'est une statistique établie au 21 novembre 2003. Des Bhopal, eh bien, il y en a eu et il y en a de nombreux actuellement dans le monde et notamment en Inde. Depuis le tournant des années 90, depuis le début des années 90, l'Inde, comme on dit, s'ouvre à la mondialisation et c'est tentant de s'installer dans un pays qui se dérégule peu à peu lorsqu'on est, par exemple, dans le secteur de l'agrochimie. N'oublions pas que l'Inde est à 70% rurale. Souvenons-nous de la révolution verte, cette révolution qui a permis de nourrir ces centaines de millions d'Indiens. Et d'ailleurs, la présence de cette usine Union Carbide à Bhopal correspondait, allait avec cette révolution verte. Catastrophe donc, et les risques sont toujours présents. Que sont devenus ceux de Bhopal ? C'est notre sujet avec Guy. Aujourd'hui, nous partons. Bienvenue en Inde. Warren Anderson. Et un peu plus loin, il y a des graffitis qui disent qu'il faut le pendre.
Il faut le pendre.
Warren Anderson. Et là en face, c'est le site de Union Carbide. Et ce côté-ci de la route, c'est un bidonville. Alors, il y a quelques personnes autour de nous. Il y a cette dame là. Et comment vous vous appelez?
Razia Sultana.
Razia Sultana. On m'appelle parfois aussi Baby.
Baby.
Oh, Baby.
Oh, ça c'est comme au cinéma, ça. Et là, c'est à qui les enfants là?
J'ai 4 enfants qui sont...
Mais c'est des grands garçons là, hein? C'est des grands costauds. Hein? Quel âge il a le grand là?
Il a 23 ans.
Toi t'es né après?
Il a 14 ans.
14 ans?
Il a 19 ans.
19 ans. Donc lui, il a exactement l'âge de la catastrophe.
Il avait un mois et 8 jours le jour de la catastrophe.
Vous étiez où à ce moment-là?
J'étais ici chez moi, à la maison.
Et qu'est-ce qui s'est passé là? Vous vous souvenez?
Il était 2h du matin.
Donc vous dormiez?
Je dormais. Quand le gaz est sorti, mes yeux ont commencé à brûler et ça faisait mal. Et je pensais que c'était un feu, un incendie. Mes yeux brûlaient et ça suffoquait. J'avais du mal à respirer. Mm-hmm. Tout le monde était en train de tousser. Je n'arrivais pas à parler. Ce soir-là, on a commencé à courir dans tous les sens. Il y avait des gens qui tombaient dans des fossés, dans des petits canals. Personne ne savait quoi faire. On voulait tout simplement quitter l'endroit.
Mais est-ce qu'il y avait du feu? Ça sentait quoi comme odeur?
Alors le sentiment, c'était comme si on respirait des piments rouges. Quand on les frit dans l'huile, ça dégage des vapeurs qui font mal.
Mais est-ce qu'on vous avait prévenu que quelque chose pouvait arriver? Est-ce qu'on vous avait prévenu que l'usine pouvait être dangereuse?
Non, on n'était pas du tout au courant et on ne savait pas. Tous les gens ont couru dans tous les sens. Moi-même, j'ai couru un peu, mais j'ai fini par revenir à la maison parce que je ne savais pas où aller. Et mon mari était dans une très mauvaise condition à la maison.
Il était comment?
Je suis revenue. Il s'était évanoui le soir même. Après, il s'est réveillé. Il a eu un cancer après.
Uh-huh. Qui a été attribué à ça par la suite?
Moi-même, j'avais beaucoup de problèmes. Je m'évanouissais très très souvent. J'avais des problèmes de gorge aussi. Et je suis aussi restée très très malade.
Votre mari est où?
Ça fait 11 ans que mon mari est décédé.
Est-ce que vous avez touché des indemnités?
J'ai reçu uniquement 25 000 roupies après le décès de mon mari.
Et pour vos maladies, à vous, pour vos handicaps?
J'ai rien eu pour mes maladies à moi.
Le gaz n'est pas toxique. Il n'y a rien d'autre à faire que de dire au patient d'apposer un linge humide sur les yeux. Cette phrase est restée dans la mémoire des habitants de Bhopal. Elle fut prononcée par un médecin, le médecin de l'entreprise Union Carbide, cette nuit du 3 décembre 1984, alors que tout le monde se tournait vers des autorités, vers des spécialistes nous nous tournons toujours vers les spécialistes. Vous savez bien que nous avons nous aussi, nos spécialistes et nos experts pour nous éclairer. Eh bien, les autorités, eh bien, les habitants autour de l'usine, du site Union Carbide, se sont tournés vers les spécialistes, en l'occurrence ce médecin de cette entreprise, qui leur a dit « il n'y a pas de problème ». Problème, des années plus tard, eh bien, chaque jour, 4000 personnes consultent dans l'un des 7 hôpitaux de la ville de Bhopal pour des séquelles, pour des douleurs mystérieuses, des douleurs dans les membres, des problèmes respiratoires, des dérèglements chez les femmes, des faiblesses générales. Aujourd'hui, les humanitaires ne viennent plus trop dans cette région. Ce n'est plus une cause très médiatique. Ce n'est pas avec ça qu'on va faire des rising funds, qu'on va lever des fonds. Alors, bon, ben voilà. Oui, bien sûr, c'était catastrophique. Mais que voulez-vous ? Le temps passe. D'autres malheurs plus médiatiques nous appellent ailleurs. Il y a des têtus. Il y a quand même des têtus. D'abord, ces habitants des bidonvilles qui continuent de lutter, qui continuent de se battre, qui continuent d'exiger des indemnisations, que simplement leurs droits les plus élémentaires soient reconnus. Il y a des gens qui se battent, tels Rajkumar Keswani, qui est un journaliste qui parle carrément d'une conspiration contre le tiers-monde. C'est des figures, pas seulement à Bhopal, il est connu dans tout le pays, dans toute l'Inde. Et puis, il y a aussi un autre combattant, si on veut, qui s'appelle Satyu Saranji et qui est responsable de l'ONG Sambhavna. Et c'est une petite clinique où lui et puis d'autres médecins responsables, ils soignent aussi par les plantes, viennent au secours de ces malades et puis les appuient, les soutiennent dans leurs revendications, dans leur lutte. Satyu va nous dresser un portrait de la situation à Bhopal.
My name is Satyanath Sarangi.
Je m'appelle Satyanath Sarangi.
Of the Sambhavna Trust Clinic.
De la Sambhavna Trust Clinic de Bhopal.
We offer free medical care to the survivors of the Union Carbide disaster.
On apporte des soins gratuits aux survivants de la catastrophe de Bhopal.
Alors c'est là où nous trouvons la clinique. C'est une petite clinique dans Bhopal avec des panneaux, des indications, un peu tout. Il y a une chose qui est très impressionnante. Là, c'est un dessin sur un chiffon blanc avec des poumons un peu en relief comme ça, en éponge. Quel est le problème numéro un des survivants ?
Actually, there are so many problems that it is difficult to say what is number one.
Il y a tellement de problèmes que c'est difficile de dire quel est le premier.
The effects that people had then and even that continue till today are breathlessness.
Les effets qu'ils ont eu à l'époque et qu'ils ont encore aujourd'hui, c'est d'abord des problèmes respiratoires.
Diminished vision.
Troubles de la vision.
Damages in the reproductive system leading to menstrual irregularity.
Troubles aussi du système reproductif, en particulier chez les femmes qui ont des règles irrégulières.
Neurological disorders.
Des troubles neurologiques.
And then there is the problem of damage because of the immune system.
Et aussi, il y a toutes les atteintes au système immunitaire.
So they're more prone to infections.
Et donc, les gens sont plus exposés à des infections.
And now we are seeing late manifesting problems like cancers and tuberculosis.
Et maintenant, on voit des effets à long terme de cette intoxication, comme des cancers, des tuberculoses.
And actually, people are still dying from long-term effects.
Et encore aujourd'hui, des gens meurent des effets secondaires à long terme.
Je m'appelle Hamida Bi.
Alors, vous êtes une activiste, c'est-à-dire que vous militez pour aider les femmes à s'en sortir en travaillant, en faisant des petits travaux avec la machine à coudre, en faisant des robes, de la broderie, des drapeaux. Vous avez combien de victimes dans votre famille ?
En tout, du côté de mon mari et dans ma propre famille, il y a 30 victimes.
30 victimes.
पिरानी दिया कि जब पीछे वाले गेट से हम लोग अंदर घुसे तो मुर्दे खाने में लाशों को इस तरह से फेंक रहे थे।
Quand je suis entrée dans l'hôpital, on a vu des gens en train de jeter des cadavres comme si ils étaient en train de jeter des sacs de pommes de terre।
फिर जो वहां पार्क बने हैं उसके अंदर ऐसी जैसे अलमारी के खाने बनाते हैं तो एक मुर्दे पे एक मुर्दा थप्पियां लगा दी थी पार्क में नंबर बाय नंबर लाशें ये 10 नंबर ये 11 नंबर ये 12 नंबर तो वहां लोग खड़े हुए थे पहचानने के लिए
ils étaient en train d'empiler les cadavres les uns sur les autres et les numéroter pour pouvoir les repérer après
फिर उसके बाद में आगे बढ़ी मैं ढूंढने बच्ची तो मैंने ये देखा कि पूरे बरामदों में लाशें बिछी हुई थी
Quand on regardait les cadavres de près, on voyait qu'ils étaient tous en train de baver par le poison qu'ils avaient avalé.
1800 personnes meurent cette nuit-là, avec, sans comprendre, parce que c'est un gaz. Les gens nous ont décrit l'odeur, c'est une sorte d'odeur de chou pourri. Et ils courent, ils sont étouffés, ils sentent... perdent le souffle. On ne sait pas du tout comment réagir par rapport à ces malaises. Et on voit des gens qui s'écroulent, qui s'effondrent dans les rues de la ville de Bhopal dans la nuit. Et on comptera, toujours selon les chiffres officiels, on s'en tiendra à ça, à 1800 personnes qui vont mourir cette nuit-là. Et dans la semaine qui suit, 3000 vont mourir des suites de cette catastrophe. Catastrophe produite par le MIC, c'est-à-dire isocyanate de méthyle. C'est un produit hautement toxique qui est utilisé dans la fabrication des pesticides, qui est utilisé aussi dans la fabrication d'armes chimiques, de gaz de combat. Mais bon, l'agrochimie permet de stocker ce genre de produits extraordinairement dangereux. Pour vous donner une idée, aux États-Unis ou en Europe, à l'époque, il n'était pas autorisé de stocker plus d'une demi-tonne de ce produit. Or, à Bhopal, c'est 60 tonnes qui était stocké. C'est ça le charme du tiers-monde, c'est qu'on s'en fout complètement des règlements et c'est pour ça que des entreprises comme celle-là s'étaient implantées dans cette ville de Bhopal et qu'un bidonville aussitôt s'est constitué autour. C'était formidable, il y avait du travail, il y avait de l'activité et c'est les habitants de ces bidonvilles qui seront touchés. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que la composition exacte du gaz n'a jamais été fournie par Union Carbide, ce qui aurait évidemment permis aux médecins de réagir, de trouver des remèdes. Pourquoi ? Eh bien, pour des raisons de secret industriel, tout simplement. On retrouve notre ami Satinath Sarangi dans son ONG Sambhavna.
Quelles ont été les réactions du gouvernement indien et de Union Carbide par rapport à ce désastre humain?
For Union Carbide, it was just a question of denial, that they denied that they had anything to do and generating a lot of PR, public relations.
Pour Union Carbide, c'était un déni le plus total et ils ont juste essayé de réparer le dommage que ça pouvait leur causer en termes de relations publiques.
For the Indian government and the state government, it was doing the best they can for the corporation.
Et pour ce qui est du gouvernement indien et du gouvernement de l'État du Madhya Pradesh, pour eux, c'était d'essayer de préserver un maximum Union Carbide.
Mais pourtant, Union Carbide a versé des indemnités de 470 millions de dollars, d'une part, et d'autre part, il y a un hôpital qui a été construit avec des fonds Union Carbide.
The second part of the information is not correct.
La deuxième partie de ce que vous avez dit est faux.
In the first part that they gave $470 million, we are talking of 500,000 people. So the money they have received is only 25,000 rupees, which is about $500.
Pour ce qui est des 470 millions de dollars qui ont été versés, sachant qu'il y a plus de 500 000 personnes qui ont été touchées, ça veut dire qu'ils n'ont pas touché plus de 25 000 roupies, c'est-à-dire pas plus de $500 par victime.
And for death, little more than $2,000.
et quelques-uns ont eu à peine plus que 2000 dollars pour les morts.
And the Bhopal Memorial Hospital Trust is not funded from carbide money.
Quant à l'hôpital Bhopal Memorial Trust, il n'a pas été payé, il n'a pas été financé avec l'argent de Union Carbide.
And it is from the selling of the confiscated shares.
Mais c'est l'argent qui est issu de la vente de leurs parts qui ont été confisquées suite aux poursuites pénales.
The government charged the corporation and its officials.
Le gouvernement a attaqué, a poursuivi l'entreprise Union Carbide et ses dirigeants.
In this, there were two foreign corporations and one foreign individual accused.
Il y a eu deux entreprises étrangères et un individu étranger qui ont été poursuivis.
This man is Warren Anderson.
C'est Warren Anderson.
Warren Anderson.
The chairman of the corporation at that time, he was the man who had approved the design and who was in charge of running the plant. And he was the one that everything would go from here for approval. Every decision would have to be approved by him.
C'est celui qui a supervisé la construction de l'usine. C'est lui qui était en charge du fonctionnement de l'usine. Chaque démarche, tout le fonctionnement de l'usine devait passer sous son regard.
So they are all absconding justice. They did not come to the court ever.
Et aucun ne s'est jamais présenté devant la justice.
Warren Anderson is living in Long Island, New York, and the information we have is he plays golf in the morning and has parties in the evening.
Warren Anderson vit tranquillement à Long Island dans l'état de New York et d'après les informations qu'on a, il joue au golf le matin et fait des soirées très gaies le soir.
Les machines à coudre sont des petits ateliers qui se sont constitués à travers la ville de Bhopal pour permettre à des veuves, à des femmes restées seules de trouver des ressources en faisant de la couture. Tandis que en 1999, Monsieur William Joyce, le PDG de Union Carbide, lors de la fusion avec un autre géant de la chimie, Dow Chemical, déclarait dans l'assemblée réunie de la direction de cette énorme multinationale, « Depuis longtemps, nos deux entreprises, c'est-à-dire Union Carbide et Dow Chemical, se sont engagées auprès de leurs clients et de leurs salariés dans les respects de l'environnement et de l'éthique dans les pays où ils travaillent. » On se dégonfle pas, la com, ça marche à fond la caisse dans ces entreprises-là. Et c'est faire preuve d'un manque de mémoire. Dow Chemical, dans le genre entreprise terroriste, a quelques casseroles assez gratinées. Dans les années 60, cette entreprise s'était lancée dans la fabrication d'implants mammaires en silicone et devint même numéro un sur le marché. C'était l'époque où les femmes devaient avoir des seins volumineux, alors il y avait un marché de ce côté-là. Mais le produit s'avéra moins performant que promis et moins miraculeux, et des études évoquèrent de grands risques de cancer. Aussi, des femmes portèrent plainte contre Dow Chemical. 2000 femmes ont porté plainte. Jusqu'à ce jour, Dow Chemical a versé 5 milliards de dollars aux plaignantes américaines. 5 milliards de dollars, on est tout à fait content pour ces femmes, mais 5 milliards de dollars pour 2000 plaintes, c'est 10 fois plus que pour les 500 000 victimes de Bhopal. C'est un dossier qui est assez peu connu, dont le journal Le Monde a parlé en 1999, mais je crois que ça vaut vraiment le coup de savoir ce que valent les uns, ce que valent les autres.
Et puis, elle m'a dit maintenant. Donc, il y a ce lagam. Ah, oui, il y a vos pieds, oui. तो ये समझ लो कि वो तो ये ना तो मरने में ना जीने में वो पनप ही नहीं रही अभी घर में पड़ी उठते बैठते बनती
नहीं j'étais enceinte à l'époque et j'ai eu une fille après qui était affectée par le gaz elle est ni morte ni vivante elle est toujours vivante mais elle est dans un très mauvais état
बस ये हाथ पैर को जो हड्डी घुल रही है और बस गठाने हो गई सरकार ने कह दिया इसे बीमारी बना दी
Elle a des difformités, elle a des os qui sont très faibles, elle a beaucoup de mal dans ses articulations, mais on ne peut pas la déclarer victime de gaz pour avoir des compensations parce qu'elle n'a pas l'âge qu'il faut.
Ah,
oui.
C'est curieux parce que comme une illustration de ce qu'on est en train de dire, il y a une espèce de nuage de moucherons moustiques là, qui est au-dessus de nous, et c'est une illustration insensée. C'est un nuage de moucherons, moustiques qui nous suit. On peut se déplacer. Ils nous suivent. C'est les mouches, tu sais, les mouches de Sartre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là, il y a une distribution d'eau, une citerne en plastique avec tous les gosses et les femmes qui viennent chercher de l'eau. Et on sait que la nappe phréatique est évidemment complètement pourrie et polluée par les émanations et les restes. Des produits polluants qui sont imprégnés dans le sol, ça n'a pas bougé. Alors, on imagine évidemment que Warren Anderson, s'il vient ici, je crois qu'il passera un sale quart d'heure.
On ne peut pas dire que le gouvernement de l'Inde n'ait rien fait pour que justice soit faite. Mais les sommes, les indemnités réclamées par le gouvernement indien n'ont jamais été versées, ni même jamais été prises en compte. Il a eu ces 470 millions de dollars qui ont été versés, mais ce n'était pas vraiment un versement. Les avoirs de Union Carbide en Inde ont été bloqués, et c'est une partie des sommes bloquées qui ont servi à ces indemnisations, évidemment, tout à fait méprisantes pour les victimes. En 1992, un tribunal indien, relayé par Interpol, a lancé un mandat d'arrêt international contre ce fameux Warren Anderson, mais les autorités américaines n'ont pas suivi. Et en 2002, à nouveau, le tribunal de Bhopal a ordonné une procédure d'extradition contre l'ex-PDG de Union Carbide, mais le gouvernement indien a demandé au tribunal de Bhopal de changer le chef d'accusation. Au lieu que ce soit pour homicide, il fallait que ce soit pour négligence, qui évidemment revenait à supprimer tout espoir de voir juger un jour en Inde ce terroriste qui est tout simplement ce Warren Anderson. La question est de savoir si on a tiré l'ombre d'un début d'amorce de leçon. Satyu Saranji. Est-ce que vos compatriotes sont conscients de ça?
They're only gradually becoming aware because
c'est une prise de conscience très progressive.
It involves
understanding complex issues.
Parce que ça demande de comprendre des questions beaucoup plus complexes.
But at a simple level, it involves to imagine how devious a mind can be, a profit-oriented mind can be.
Mais d'une certaine manière, ça montre à quel point, à chaque fois, un esprit orienté vers le seul profit peut être pervers.
Est-ce que le paysage politique tel qu'il évolue chez vous, je pense au BJP qui progresse, est-ce que c'est bon ou pas bon pour essayer de freiner les effets de la globalisation?
It is worse.
C'est pire encore.
Particularly for Bhopal.
En particulier pour Bhopal.
Because 45% people are Muslim.
Parce que 45% des gens à Bhopal sont musulmans.
So they become expendable people.
Donc ça devient des gens dont on peut se passer.
And now we are seeing a very closeness between the American government and the right-wing fundamentalist government in India.
Et on voit des rapprochements de plus en plus clairs entre le gouvernement américain et les fondamentalistes de droite hindouistes en Inde.
And this is so blatant that it reminds us of what happened in Latin America many years ago. It is similar situation in which American corporation join hands with the dictatorial government.
Et ça rappelle beaucoup ce qui se passait en Amérique latine il y a des années de ça, par exemple dans les années 70, où le gouvernement américain et les sociétés multinationales sont main dans la main avec des régimes dictatoriaux.
Demain, on ira avec Rajkumar Keswani dans le site lui-même, parce que le site existe toujours à Bhopal. Il y a une grande partie des installations d'il y a 20 ans qui sont toujours là, envahies par la végétation. Mais on a pu, avec Give et notre ami journaliste et notre interprète, Upam, visiter... rôle de visite, cet endroit terrible. Et à la limite... du site, eh bien, il y a un mur, des petits barbelés assez inoffensifs, et de l'autre côté du muret, eh bien, il y a un bidonville entre la ligne de chemin de fer et le site de Bhopal. Il y a des habitants, une espèce de bidonville qui est là, avec des gosses qui jouent, et qui jouent sur les ruines de Bhopal. Là, il y a des gosses qui jouent. On est dans l'enceinte de Bhopal. Hein. Et il y a des gosses qui jouent là. Ils sont vachement mignons. Hein. Et juste, il y a le mur là. Et le bidonville commence là.
Ils sont en train d'expliquer leur jeu. Ils nous ont dit le nom du jeu qui dit glaçon et eau. Mais il n'y a ni glaçon ni eau. Donc...
Quel nom
est-ce?
Podia. Podia. Tu m'as là?
Nisha.
Para.
Para.
Sandeep.
Alors, on est sur le bord du mur. Bonjour.
Namaste.
C'est pas dangereux pour les enfants de jouer là?
S'ils touchent à des choses sur ce site, ça brûle. Mais ils font attention, ils essaient de ne pas toucher.
Qu'est-ce qui brûle? Qu'est-ce qui risque de brûler?
S'il touche le réservoir qui est là, ça fait brûler la peau.
C'est arrivé ça?
Oui. Moi j'ai déjà touché une fois.
Oui.
Il y a déjà des enfants qui ont touché, même les gardiens parfois ils vont toucher et après ils nous expliquent que ça fait mal et que ça brûle la peau.
Oh.
Nous avons déjà prévenu les enfants, on leur a demandé de ne pas aller toucher, mais ils ne nous écoutent pas tous les jours.
Sinon, est-ce qu'il y a des odeurs de gaz qui viennent jusqu'ici?
Quand il y a du vent, il y a des mauvaises odeurs qui viennent, et en été, on a beaucoup de mal à supporter toutes ces odeurs.
Est-ce que des gens sont venus vous dire de faire attention, de prendre des précautions par rapport au gaz?
On a déjà été sensibilisés, on fait attention, on essaye de ne pas s'approcher de l'usine, sauf les petits enfants qui vont jouer sur l'herbe dans le campus.
On a un puits, mais les médecins nous ont interdit d'utiliser cette eau.
Et vous, il y a des cultures ici, ils font pousser des choses.
Quelques plantes.
Il y a des arbres fruitiers, même sur le campus, on a mangé des fruits, il ne nous est rien arrivé.
Alors quand on dit le campus, il faut comprendre que c'est l'espace de ce qu'on appelle Bhopal, c'est-à-dire de l'Union Carbide, là où a eu lieu la catastrophe.
Et là, ils font pousser des papayes qu'ils mangent quand ils mûrissent et ils disent que rien ne va. Si tout est dangereux, qu'est-ce qu'on mange?
Ah oui, c'est la dame qui dit ça là-bas au fond. On a que ça à bouffer, quoi. C'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, pour Bhopal, qu'est-ce que vous réclamez?
Our main demands from Dow Chemical is one that they must be present in the court.
D'abord, c'est que Dow Chemical, qui a racheté Union Carbide, se présente devant la justice indienne.
Second is they must provide for medical care, research and health monitoring.
Et deuxièmement, c'est qu'ils doivent apporter de l'aide en termes de soins, de recherche et de suivi médical.
For at least two generations.
Pour au moins deux générations encore.
The third is they must clean up the severe contamination of groundwater and soil in and around the factory.
Puis ils doivent décontaminer et nettoyer tout ce qu'il y a de déchets toxiques dans la terre et dans l'eau sur le site de l'usine et tout autour.
And the fourth is that Dow Chemical must provide the for social and economic rehabilitation of the survivors.
Et quatrièmement, Dow Chemical doit apporter les moyens pour une reconversion, pour une aide sociale et une reconversion économique de toutes les victimes de cette catastrophe.
Vous pensez qu'il faut supprimer le capitalisme ou qu'il faut le domestiquer?
I don't think that because it's very essential. In the essence, there is no possibility of domestication because it is two different worlds.
Pour l'Inde, en tout cas, il n'y a pas de possibilité de domestication du capitalisme parce que c'est deux mondes trop différents.
It just comes to very simple thing, whether
c'est très simple, au fond.
People are important or money is important.
Est-ce que c'est les gens qui sont importants ou c'est l'argent qui est important?
Yeah. Les Indiens peuvent comprendre ça?
Yes, these are simple terms and they understand how it is gradually disintegrating.
Et cette équation très simple, ils la comprennent et ils comprennent comment petit à petit c'est en train de se désintégrer.
Un reportage avec Guy Van Thiel diffusé pour la première fois le 13 janvier 2004 et dont nous retrouverons la suite demain d'ailleurs. Traduction Rupan Singh, merci à Satina Sarangi de l'ONG, Sambhavna Trust et Abdul Jabbar de l'association Swadiban, ainsi qu'à Rajkumar Kesmani. À lire, il était minuit 5 à Bhopal de Dominique Lapierre et Javier Moreau, publié en octobre 2002 par les éditions Robert Laffont. Sachez que toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. volontaire à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Benjamin de la Gâtinée et Guillaume Roux. À la réalisation, Coy Nguyen et Raphaël Moutarde. Assistante Agnès Lebot, chef du répondeur. Catherine Pinto, le numéro du répondeur de Là-bas, si j'y suis est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
De plus en plus de gagnants loto, bonjour.
Est-ce que Gérard Abada peut gagner les 7 millions de ce mercredi?
Je ne le connais pas, mais oui, bien
Très
sûr.
Très bien, bah je note. Alors Martina Baga, elle peut gagner aussi?
Oui, tout le monde peut.
Bon, je continue, Jean-Marc Abalin.
Écoutez, vous n'allez pas me faire tout l'annuaire.
Attendez, c'est vous qui dites que tout le monde peut gagner, oui. Alors ça vous gêne pas qu'on vérifie hein, quand même.
Oui.
Bon, alors, Paula Kamikalamara.
Loto, la chance appartient à tout le monde.
Non, à Kamikalaro.
Alors dépêchez-vous, ce mercredi, le jackpot est de 7 millions d'euros, montant à partager entre les gagnants du premier rang. Française des Jeux. Le Nautique, Salon Nautique de Paris du 5 au 13 décembre. Popeye, la mascotte du Nautique, vous donne rendez-vous et vous invite à découvrir toutes les nouveautés, voiliers, bateaux à moteur et équipements. Venez vivre au rythme des animations, cuisine à bord, l'espace découverte, le livre du Nautique, le showroom équipement, l'arbre de Noël. Tous au Nautique du 5 au 13 décembre à Paris, Porte de Versailles. Tout le programme sur salonnautiqueparis.com.
Ici, chez TGV, on fait mincir nos prix par tarif aux succions. Une petite incision sur le côté du prix. Et on aspire.
Stop!
Non! Encore jusqu'à moins 60%.
Oh, ça va pas, non!
Les tarifs TGV Proms n'ont jamais été aussi minces. Profitez de billets à moins 40, moins 50 ou moins 60% jusqu'au 8 décembre. TGV, plus de vie dans votre vie.
Offre soumise à conditions, également disponible sur Théos, Lunéa et Intercité.
SNCF. Dans quelques minutes, Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon, France Inter. Il est 16h. Le point sur l'information, Clotilde Dumetz.
Des militants de Greenpeace envahissent l'Assemblée nationale, du moins les tribunes du public de l'Assemblée. Une irruption durant les débats des parlementaires sur la conférence de Copenhague sur le climat. Auparavant, quelques militants écologistes avaient escaladé le toit de l'Assemblée. La maltraitance envers les personnes âgées. La secrétaire d'État annonce 10 mesures pour lutter contre notamment la mise en place d'une évaluation indépendante de tous les établissements recevant des personnes âgées indépendantes. À l'affaire Grégory, les gendarmes effectuent des prélèvements dans les Vosges. Ils ont débuté ce matin leur mission de comparaison génétique à la suite de la découverte de traces ADN sur les scellés. Les États-Unis vont ouvrir pour la première fois deux consulats en Afghanistan. Une déclaration faite peu après l'annonce par le président Barack Obama de l'envoi de 30 000 soldats supplémentaires pour combattre les talibans dans le pays. Le premier consulat sera ouvert dans le courant de l'année 2010 à Mazar-i-Sharif, la grande ville du nord du pays, près de la frontière avec l'Ouzbékistan. Le second consulat sera situé à Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan, près de la frontière iranienne. Et puis cette précision du secrétaire d'État à la défense américain, les 30 000 soldats supplémentaires commenceront à arriver sur le terrain d'ici 2 à 3 semaines. La fin d'une enquête de police, un courbet volé en 2004, retrouvé et 12 personnes interpellées à l'hôtel Drouot. 12 personnes dont 8 commissionnaires de la salle des ventes. Le tableau La Vague de Gustave Courbet avait été volé en région parisienne en 2004. À Rouen, un drôle de compteur devant le conseil général de Seine-Maritime. Il égrène la dette de l'État au département. Un grand panneau lumineux mis en service à minuit hier avec un montant de 238 195 040 euros. Il progresse de 139 euros à chaque minute et devrait atteindre 244 millions à la fin de l'année. Selon Didier Marie, le président socialiste du Conseil Général, cette dette correspond au montant des transferts de charges non compensés. Une date à retenir, le 15 décembre. C'est ce jour-là que 16 organisations syndicales de l'éducation et de l'enseignement supérieur ont choisi pour appeler à une journée nationale de mobilisation contre les modalités de réforme de la formation des maîtres. Bref, grève en vue dans les établissements scolaires. Le Louvre et le Château de Versailles ouverts aujourd'hui. Un mot d'ordre de grève a été lancé par les organisations syndicales du ministère de la Culture. Une grève pour protester contre une baisse des budgets et des effectifs. En football, la plaie préparative du Mondial 2010 et le tirage au sort vendredi des différents groupes. Cette annonce ce matin, la France ne sera pas tête de série en Afrique du Sud. Elle se trouve dans le pot numéro 4. Les têtes de série sont évidemment l'Italie et l'Afrique du Sud. Le tenant du titre est l'organisateur. À leur côté, le Brésil, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Argentine et l'Angleterre. L'État subventionnera les villes candidates, même si la France n'organise pas l'Euro 2016. C'est Ramayad qui le dit. On parle aussi de football. La secrétaire d'État au sport a précisé que l'enveloppe de 150 millions d'euros promise par l'État aux 12 villes candidate à l'Euro 2016 pour construire ou rénover leur stade sera versée, même si la France n'en décroche pas l'organisation. Et puis de la musique, avec le début à Rennes de 4 jours de rythme bien fourni, c'est ce soir que débutent les Transmusicales, 31e édition. Et je vous rappelle aussi un autre rendez-vous sur France Inter, c'est de musique, c'est le concert de M ce soir en live.
Les questions du mercredi. Une émission de France Inter et du journal Le Monde avec Dailymotion, ce soir à 19h20. Jean-François Aquili.
Notre invité ce mercredi est Daniel Cohn-Bendit. Nous évoquerons avec le leader d'Europe Écologie le sommet sur le climat qui s'ouvre à Copenhague. Faut-il déjà parler d'échec ? Il sera également question de la menace verte sur le PS aux prochaines élections régionales. Rendez-vous avec Daniel Cohn-Bendit dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, ce soir à 19h20.
France Inter présente The Sound of Music, la mélodie du bonheur au Théâtre du Châtelet du 6 décembre au 3 janvier. La mélodie du bonheur, ou l'histoire mythique de Maria et de la famille Van Trapp, rendue célèbre par le cinéma pour la première fois sur scène à Paris. Retrouvez The Sound of Music, la mélodie du bonheur, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter, la différence.
De la musique, encore de la musique, France Inter, c'est le carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Clotilde.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout à l'heure, à 16h30, je recevrai la grande soprano Annick Massis, mais pour l'instant, je vous propose de commencer en douceur avec Félix Mendelssohn sur les ailes du chant dans un arrangement pour violon et piano. C'est Daniel Hope, le violoniste, qui a signé chez Deutsche Grammophon. Nous poursuivons la visite du catalogue à l'occasion du 111e anniversaire de cette belle maison de disques. Et oui, ça existe encore, heureusement. Thank you.
Sur les ailes du chant de Félix Mendelssohn, transcription pour violon et piano, interprétée par Daniel Hope au violon, nouvel arrivant chez Deutsche Grammophon, donc, et Sébastien Knauer au piano. Et puis il y a aussi les anciens dans le catalogue, toujours présents, toujours maintenus, par exemple Ferdinand Leitner, qui avait enregistré en 1959 Casse-Noisette avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Et là aussi c'est bien joli, un peu de circonstance en ces temps d'avant. Et je vous propose la danse de la fée dragée avec une scintillante sonorité, une angélique sonorité de Celesta, petit instrument à lamelles métalliques et à clavier que Tchaïkovski avait découvert à Paris.